Bienvenue sur Radio Créaum. Vous êtes à l'écoute d'un extrait du colloque international « La tuerie de l'école polytechnique 20 ans plus tard, les violences masculines contre les femmes et les féministes », colloque qui a eu lieu à l'UQAM les 4-5-6 décembre 2009.
Et donc, nous abordons la troisième présentation avec Rosalind Wong. Rosalind Wong est une travailleuse du mouvement contre le viol et l'inceste, qui est en opération depuis 1975. Et c'est un des premiers centres, comme vous le savez sans doute, contre le viol qui a été établi au Québec. En 2002, le mouvement a reçu une subvention pour lancer un projet pour rejoindre les femmes immigrantes et réfugiées victimes de violences sexuelles. Et depuis ce temps, le centre a œuvré à remplir une demande peu comblée à Montréal, l'aide, la prévention, la sensibilisation, la défense des droits en matière des agressions sexuelles touchant les femmes immigrantes et réfugiées et les femmes des communautés ethnoculturelles. Donc, Madame Wong va nous faire une présentation qui s'appelle « Dévoilons le tissu d'oppression ». Le travail qui reste à faire dans les organismes féministes pour rejoindre les femmes dans leur diversité.
Merci beaucoup. Okay. Bonjour, bon matin, chers collègues, alliés, sœurs et frères solidaires. Il est un grand plaisir et un immense honneur de vous parler. Sur cette journée historique, de vous adresser en tant qu'une jeune féministe ainsi qu'une femme issue de l'immigration. Car mes parents sont chacun d'outre-mer et moi-même, venant de Vancouver, ça fait un an et demi, je continue à m'émerveiller et m'apprivoiser dans cette ville, province et nation que j'adore. Je suis fière de représenter, comme travailleuse et comme militante, un centre qui se trouve au sein de l'histoire du mouvement féministe de la lutte contre la violence faite aux femmes au Québec, le mouvement contre le viol et l'inceste, ou le MCVI. Fondé en 1975, le MCVI est un des premiers centres contre le viol à s'établir au Québec, un phénomène appartenant au mouvement féministe radical pour répondre aux grands besoins de services pour les femmes ayant vécu la violence sexuelle. Le but de mon atelier ce matin est de vous présenter les pistes que nous avons suivies pour assurer une approche basée sur une analyse de l'intersectionnalité des oppressions. Le concept d'intersectionnalité est assez récent et bien d'avoir soulevé de l'intérêt de plusieurs scolaires progressistes, la recherche sur l'application de cette analyse dans un travail de terrain demeure toujours moins développée. Je vais commencer alors avec une brève définition de l'intersectionnalité des oppressions. Ensuite, je poursuivrai avec le travail que nous avons fait lors de notre projet visant les femmes immigrantes, mais qui a évolué à devenir un volet important au sein du travail au MCVI. Donc, vu que ma présentation peut être des fois théorique, utilisant un vocabulaire que vous n'allez pas reconnaître, j'aimerais juste prendre des moments à des reprises pour vérifier que vous comprenez bien, que vous me suiviez. Sinon, je pourrais toujours utiliser d'autres exemples ou d'anecdotes pour mieux élaborer. Donc, l'intersectionnalité des oppressions dérive d'une approche féministe radicale qui cherche au-delà de l'acceptation d'une égalité illusoirement gagnée, pour dénoncer aux racines de notre société toute croyance, institution et politique qui renforce un patriarcat et qui permet et facilite la violence faite aux femmes. Cependant, nous reconnaissons que le patriarcat n'est qu'une forme importante d'oppression, qui concerne avec d'autres oppressions, le racisme, le colonialisme, l'homophobie et le classisme, et d'autres rapports du pouvoir basés sur la classe sociale, les incapacités physiques ou intellectuelles, ou le fait d'être autochtone, ou, comme on va élaborer dans cette présentation, le fait d'avoir un statut d'immigrant ou de réfugié. Ces oppressions et discriminations sont enracinées dans nos institutions politiques et culturelles et en découlent de nos organismes, même celles qui sont communautaires. En minimisant, invisibilisant ou niant ces diverses formes d'oppression, on finit par renforcer les structures, les forces et les normes qui les propagent. L'important est alors de non seulement dénoncer et combattre l'ensemble de ces oppressions au niveau collectif et systémique, mais de reconnaître qu'à force de leur omniprésence, que nous-mêmes agissons dans ces dynamiques de privilèges et de domination et que nous existons et participons, nous aussi, dans les rapports de privilèges et d'oppression, et souvent les deux en même temps, avec les autres. Donc, jusqu'à maintenant, ça semble clair? OK. Parfait. OK. Donc, avant d'entrer dans le sujet de notre projet spécifique, je prendrai juste quelques minutes pour identifier deux types majeurs de défis auxquels des femmes immigrantes et réfugiées, qui sont à l'ajout aux défis vécus par les femmes survivantes d'agressions sexuelles, en reconnaissant aussi les présentatrices qui sont venues avant moi, qui ont beaucoup élaboré sur ce sujet. Mais je dirais, juste comme Mélissa Blé a dit hier dans la plénière, au sujet de la question récurrente, et les hommes, ils souffrent eux aussi, non? Qu'on n'est pas en train de nier que d'autres femmes peuvent vivre des oppressions similaires ou égales à celles qui font face les femmes immigrantes et réfugiées. Mais en focusant sur les exceptions ou les similitudes avec les femmes immigrantes ou réfugiées ou aucun groupe minoritaire, on est en train d'occulter les discriminations politiques et systémiques qui confrontent spécifiquement certains groupes marginalisés. Premièrement, les femmes immigrantes et réfugiées doivent surmonter des nombreux obstacles systémiques que la société dresse devant elles et qui les rendent vulnérables. Les femmes immigrantes et réfugiées doivent mettre en place des mécanismes de la survie pour s'adapter à un nouveau milieu avec de nombreuses barrières de tout ordre, la recherche de travail, la culture, le logement, la langue, parmi d'autres, et plus importante, la précarité et l'incertitude de son avenir pour une demandeuse d'asile. En même temps, elles font face à des tabous, aux stéréotypes et aux préjugés par le fait d'être une femme immigrante et réfugiée, mais aussi par le fait d'être une survivante d'agression sexuelle. Des tabous qui existent et dans son pays d'accueil et dans son pays d'origine. Pour illustrer le lien entre ces discriminations et les agressions sexuelles, il faut simplement prendre l'exemple d'une femme demandeuse d'asile qui se fait agresser par le médecin pendant son examen exigé pour sa demande de statut de réfugié parce qu'elle craint que son agresseur ait le pouvoir de l'empêcher de recevoir son statut ou parce qu'elle pense que le fait d'être agressée va la bloquer son acceptation par le gouvernement canadien. Comme dans tout, ce sont ces relations de pouvoir et de domination qui créent un contexte propice à la violence sexuelle. Deuxièmement, il s'agit des violences institutionnelles que les femmes immigrantes et réfugiées retrouvent face au système judiciaire et à la commission d'immigration qui détermine le statut de réfugié. Comme dans un procès criminel, les femmes immigrantes et réfugiées peuvent être revictimisées puisqu'elles doivent raconter multiples fois leurs agressions et continuer de les revivre. Comme dans le procès criminel, les femmes demandeuses d'asile ne sont pas crues. Leur parole est discréditée et le fardeau de la preuve revient systématiquement aux femmes. Pour les femmes, les conséquences sont dévastatrices, mais il s'agit non seulement de la justice, d'une question de justice et de guérison, mais une question de survie, puisque lorsque le statut de réfugié est refusé, cela signifie le renvoi des femmes vers un destin menaçant pour leur vie et que parfois peut signifier même la mort. Que vous avez des questions? Non? OK. Depuis que la MCVI a lancé le projet Femmes immigrantes et réfugiées en 2002, le centre s'est engagé avec élan au questionnement, à la critique et au changement de ses pratiques et structures, formelles et informelles, porteuses de discrimination. Voici un résumé de nos avancées dans les dernières années. La véritable inclusion des femmes immigrantes et réfugiées et des femmes de communautés ethnoculturelles. L'embauche d'une femme faisant partie de la minorité, par exemple, est essentielle à la bonne implication dans cette communauté. Pourtant, dans une telle embauche, il faut s'assurer surtout que l'organisme n'interagisse pas avec la nouvelle employée sur des rapports inégalitaires ou dans des dynamiques qui, dans leur ensemble, sont équivalentes au tokenisme. Le tokenisme est quand une femme est engagée simplement pour remplir une politique d'inclusion qui ne sera remplie que superficiellement et sans inclure le vrai partage de pouvoir. La travailleuse tokenisée subit en général une ou deux types de pression. Un, soit de s'assimiler aux pratiques et aux mœurs de la majorité de l'organisme, par exemple le refus de discuter les changements d'horaire, la méfiance quand la travailleuse parle dans sa langue natale, ou toute proposition qui pourrait engendre la réponse immédiate, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Soit deux, de toujours porter seul le fardeau de représenter et d'être associé à la communauté minoritaire, sans le soutien des autres. Au lieu d'intégrer son apport, ses pensées, ses valeurs, ses réflexions, dans le fonctionnement et l'analyse générale de l'organisme, son travail est considéré isolé et seulement accessoire à la mission. Il est donc essentiel qu'un employé qui est issu d'un groupe minoritaire soit accueilli comme une partie importante, intégrante au centre de l'organisation, et non à ses marges. Aujourd'hui, au MCVI, un moitié de nos travailleuses provient des communautés racisées et notre collectif se consiste d'une forte diversité de militantes reflétant la population de Montréal. Et, peut-être plus importante comme indice d'inclusion, les femmes immigrantes et réfugiées sont aussi impliquées, aussi actives que militantes, que leurs consœurs québécoises. C'est très encourageant. Deuxièmement, de reconnaître et questionner quand nos pratiques et politiques sont des véhicules de sources d'oppression. Cela nous engage à la tâche difficile, des fois même douloureuse et confrontante, de reconnaître que nos centres, nos pratiques dits féministes et nous-mêmes féministes sommes des produits et reproduisons des discriminations systémiques. Par exemple, depuis la fondation, le MCVI avait une politique d'exiger les femmes de faire leur propre demande d'aide par téléphone, dans la vision que la femme prenne en charge son propre cheminement. Cette pratique libératrice pour les femmes qui sortaient de la silence et le tabou de leurs agressions sexuelles agit comme une autre barrière inhibant la femme immigrante ou réfugiée, qui fait face déjà à des barrières qu'on a mentionnées tantôt. Le MCVI, aujourd'hui, accepte souvent les références des femmes immigrantes et réfugiées par leurs intervenants dans d'autres organismes, souvent d'accueil, leurs avocats ou les CLSC. Les autres changements à nos modalités de travail incluent des horaires plus variables, les déplacements à l'extérieur de notre local pour favoriser l'accessibilité à nos services et la gestion des imprévus et des urgences. Au MCVI, ces changements ont souvent été accompagnés des longs débats qui éprouvent parfois de la tension et les divisions. Ça en fait partie. Mais la transformation structurelle demeure vide si les changements individuels n'y suivent pas. Au niveau individuel, les intervenantes féministes doivent veiller sur leurs propres attitudes et croyances pour déconstruire les préjugés ou les idées qui intériorisent les notions de supériorité basées sur la race, la classe sociale, l'orientation sexuelle qui pourraient exister entre femmes. Comment intervenir pour franchir des confusions interculturelles sans aliéner les femmes? Comment interagir pour éviter les rapports de sauveteuses-sauvées dans les moments de crise et faire valoriser les talents et les richesses que nous amène chaque femme d'ailleurs? Comment garder ces femmes en action en tenant compte des barrières spécifiques auxquelles elles font face? Ce sont tous des questions essentielles à une bonne intervention anti-oppressive. Finalement, d'adopter une vision globale plutôt que réductionniste par rapport aux agressions sexuelles, en particulier dans le contexte de la migration. Nous avons reconnu qu'une femme ne pourrait aucunement se pencher sur son cheminement si elle vit en précarité de statut, si elle s'en occupe de trouver un emploi ou même si que son mari trouve un emploi, pour nourrir sa famille, soit d'ici ou dans son pays d'origine, et maintes autres questions de survie. Cette réalisation nous a menés à chercher la collaboration avec d'autres organismes et acteurs, comme les organismes d'accueil, de santé, d'alimentation, avec les avocats d'immigration et d'autres. Ce travail de liaison, quoique représentant une nouvelle augmentation dans le niveau de travail dévoué à chaque femme, et qui entrerait pas nécessairement dans le mandat des autres centres d'aide et de lutte contre l'agression sexuelle, nous amène une énorme richesse, soutien et expertise, ainsi qu'une façon de faire connaître dans la société la problématique des agressions sexuelles. Donc, en conclusion, où sommes-nous rendus au MCVI? Après 7 années d'engagement dans le traitement de la question d'agression sexuelle faite aux femmes immigrantes et réfugiées, tenant compte de nos avances, on reste toujours conscient qu'il nous reste beaucoup de travail à faire. En ce moment, nous poursuivons dans l'adaptation de nos pratiques individuelles comme intervenantes et structurelles en tant qu'organisme. Les discussions, les débats ne cessent pas. Pour nous, c'est une indication qu'on fait quelque chose de bien. C'est un travail qui reste non seulement devant notre organisme, mais à notre avis, devant le mouvement féministe en général. Nous faisons appel à nos sœurs et alliés de s'ouvrir aux femmes de la diversité en leur offrant une véritable place autour de la table, tant en ce qui concerne l'inclusion structurelle et organisationnelle qu'en analyse politique, de les consulter et accepter leurs choix et priorités d'action au lieu de simplement les solliciter pour remplir celles une fois déterminées par le groupe majoritaire. Tout ça, il faut être prêt à faire, même si ça va remettre en question certaines de nos façons de faire, même certains éléments du féminisme nord-américain lui-même. Nous sommes aujourd'hui le 6 décembre 2009. Nous nous avons engagés comme parmi les gardiennes du souvenir et de la conscience publique. Notre mission est non seulement de garder en vie la mémoire de 14 femmes qui ont été tuées, mais de revendiquer les forces de domination et de discrimination qui étaient au fond de cette violence. Violences qui les ont enlevées du monde. Notre rôle est de refuser de les invisibiliser. Mais nous nous mettons debout, nous revendiquant pour ces 14 étudiantes, mais aussi pour toutes les femmes. Contre les violences institutionnelles et sociales que nous produisons aujourd'hui, dont nous nous sommes toutes collectivement responsables, l'intersectionnalité des oppressions en fait une partie essentielle de cette lutte. Seulement en œuvrant à déconstruire les dynamiques et structures oppressives qui nous entourent et qui nous inhabitent, peut-on ensemble bâtir un mouvement plus solide et vaste, rassemblant et ralliant les femmes de la diversité, mais aussi d'autres individus et groupes de la société, dans la lutte contre la discrimination, l'oppression et la violence faite aux femmes. Merci.